présence de Alain Deneau, qui est chercheur et également enseignant à la, qui enseigne la, la science les sciences politiques, et également auteur de Noir Canada et plus récemment de Paradis sous terre. Donc, Alain, bonjour Alain.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Paradis sous terre pour introduire un peu la discussion qu'on va avoir aujourd'hui?
Oui, mais les éditions Écoute Société et Rue de l'Échiquier en France font paraître ce mois-ci Paradis sous terre, un livre que j'ai écrit avec mon collègue William Sachet et qui a pour sous-titre « Comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale ». La préface est de Richard Desjardins, nous en sommes très fiers. Et en fait, ce livre fait suite à un bon nombre de conférences, d'interventions, de lectures, de, d'épreuves aussi que mon collègue Sacher et moi-même avons traversées pour faire la synthèse, au fond, de ce qu'il en est du rôle du Canada quant à l'industrie minière dans le monde. Et on constate en fait deux problèmes importants. Le premier... c'est celui-ci qui est devenu de plus en plus connu, à savoir que l'industrie minière mondiale fait, porte un dossier éthique et environnemental très lourd. Il s'agit d'une industrie qui est visée à l'échelle internationale dans des cas graves d'abus, voire de crimes. On parle de corruption, de pillage institutionnalisé, de collusion avec des seigneurs de guerre, d'atteinte à la santé publique, de faits de pollution massive, de partenariats commerciaux avec des dictatures, d'évasion fiscale. Enfin, on le sait aujourd'hui, l'industrie minière est très mal vue à l'échelle internationale, d'une part, et d'autre part, cette industrie-là a pour législation de prédilection le Canada. C'est-à-dire que 3 sociétés minières au monde sur 4 sont canadiennes. 75% de l'industrie minière mondiale s'enregistre au Canada. Et ça, c'est notre point de départ. Pourquoi, en fait, le Canada attire cette industrie-là, qui est controversée de par le monde, nonobstant sa belle image d'éternel casque bleu, d'ami du genre humain, de bon gars de la planète, de pacificateur invétéré et tout ce que l'on sait, quoi. La question est d'autant plus préoccupante que cette industrie minière controversée qui s'enregistre au Canada à raison de 3 sociétés sur 4, là, Elle est, comme je le dis, elle vient d'ailleurs, hein. Elle n'est pas toujours canadienne, c'est-à-dire qu'on vient d'Australie, de Suède, de Belgique, d'Israël, des États-Unis pour s'enregistrer au Canada, là. Donc, c'est une industrie qui, de par le monde, choisit le Canada pour s'enregistrer, même si, effectivement, les capitaux ou les administrateurs ne sont pas toujours canadiens, mais aussi elle exploite à l'échelle internationale, hein. C'est-à-dire que tout en venant de tous les pays du monde pour s'enregistrer ici, à raison de 3 sociétés sur 4, on exploite beaucoup à l'étranger. Par exemple, il n'y a pas une quarantaine de mines qui sont en opération en Ontario, mais il y a à peu près 1600 sociétés minières qui sont créées en Ontario. Alors, où est-ce qu'elles exploitent ces 1600 sociétés minières qui ne sont manifestement pas en Ontario, puisque seulement une quarantaine de mines en opération? Ben, elles sont au Chili, en Argentine, en Équateur, en Colombie, en Zambie, au Mali, en Tanzanie, au Sénégal, quoique au Sénégal, je suis moins sûr, mais enfin, dans certains pays d'Afrique. Quand c'est pas la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou la Roumanie, ainsi de suite, quoi. Donc, c'est-à-dire, notre législation, le Canada, sert de point d'appui, de lieu de prédilection pour une industrie qui vient d'ailleurs, qui choisit notre cadre réglementaire pour s'enregistrer, mais qui exploite ailleurs. Et donc, toutes les questions qu'on s'est posées, c'est de savoir pourquoi tel est le cas? Qu'est-ce qui attire ces sociétés-là ici? C'est le sens de notre démarche.
Et également, en fait, est-ce qu'on peut définir aussi pourquoi est-ce que le Canada et comment le Canada fait pour exploiter davantage, exploiter énormément dans ces pays-là?
Ben, en fait, il faut voir qui exploite. Hein. C'est le sujet de l'exploitation n'est pas toujours clair parce qu'effectivement, ce sont jamais des sociétés d'État, il y en a pas. Donc, ce sont des sociétés privées, parfois canadiennes. Souvent canadienne, mais venant de l'étranger, comme je le disais, pour s'enregistrer ici, parce que notre cadre est avantageux. Quand je dis, hein, qu'est-ce que ça veut dire être une société canadienne qui n'a pas ses origines ici, vous prenez par exemple le documentaire de Thierry Michel qui s'intitule Katanga Business. C'est un documentaire sur la façon dont des Belges dans l'ancien Congo belge exploitent des ressources au compte d'entreprises à l'origine belge. Et donc, vous avez un ingénieur belge, c'est quelque chose de belgo-belge. belge à fond, là, René Nolveau, qui dit ben, quand on veut des capitaux dans le secteur minier, on se tourne vers le Canada. Donc, il s'agit d'un documentaire, le documentariste étant belge lui-même, là, qui porte sur la façon dont la Belgique continue d'exploiter, au fond, les ressources minières de son ancienne colonie, l'ex-Zaïre, l'ancien Congo belge, et qui, pour ce faire, enregistre ses sociétés au Canada, parce que c'est ici qu'on trouve les capitaux. Donc, notre pays est une sorte de havre qui permet à l'industrie minière plusieurs choses, et c'est ce que je peux décliner en quelques points. Là, d'une part, ici, il est très facile, plus qu'ailleurs, de spéculer à la bourse. Spéculer à la bourse, c'est-à-dire faire valoir auprès des marchés financiers la valeur des concessions minières qu'une société a acquises. Vous savez, sur les marchés financiers, on joue un peu au bonimenteur. Hein, on dit « Oyez, oyez, investisseurs de par le monde qui êtes de passage à Toronto, investissez sur mon titre, achetez mon action. » Ou en fait, les détenteurs de l'action vont le faire. « Achetez l'action que je détiens de telle société. Elle vaut beaucoup. La preuve, c'est que cette action-là est adossée sur des actifs, hein, c'est-à-dire sur une concession minière qui regorge de cuivre, qui regorge d'or, qui regorge de minerais prolifiques, quoi. Et le but d'un détenteur de titres qui veut vendre ses titres boursiers, c'est de faire valoir ses titres. Et à Toronto, c'est plus facile de le faire qu'ailleurs. C'est plus facile de le faire qu'ailleurs, et donc c'est plus facile, en quelque sorte, de permettre la spéculation sur la valeur des titres miniers, de faire miroiter une grande valeur pour un titre qu'on veut céder sur les marchés, tout simplement parce qu'on peut, en plus de révéler ce qu'on appelle les réserves, révéler également ce qu'on appelle les ressources. Les réserves, c'est ce qu'une société entend exploiter selon un plan industriel dans une mine. Les réserves, c'est tout ce que contient la mine, indépendamment de ce qu'on entend exploiter ou pas. Donc, ça laisse miroiter plus de valeur que n'en a le projet d'exploitation, et c'est une façon de mettre en valeur davantage un titre. Je passe sur les détails, mais tout ça pour dire qu'à Toronto, c'est facile, plus qu'aux États-Unis en tout cas, de jouer au bonimenteur sur les marchés financiers. Ça, c'est un premier point. Donc, ça attire les capitaux, mais ça attire les capitaux aussi parce qu'au Canada, c'est le deuxième point, il y a des avantages fiscaux prévus par le gouvernement fédéral, notamment ce qu'on appelle les actions accréditives, qui incitent les investisseurs, les grands investisseurs institutionnels, à placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine des mines. C'est-à-dire que les fonds de retraite, les compagnies d'assurance, les banques, les gestionnaires de fonds publics, ainsi de suite, sont amenés à placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine des mines. Donc, l'industrie minière qui s'enregistre ici a à sa disposition à Toronto une sorte de bas de laine. Hein, c'est-à-dire que les grands investisseurs placent leurs actifs davantage dans le secteur minier qu'ailleurs. Et donc, il y a 220 milliards de dollars, par exemple, qui ont été échangés entre cette mine entre 2007 et 2011. C'est un pactole. Et de Toronto, on pourrait dire qu'une sorte de pipeline d'argent qui parle, hein, et qui distribue de projet minier en projet minier des flux financiers de façon à permettre le développement de projets d'exploration ou d'exploitation. Il faut savoir que ces capitaux-là, ce ne sont pas seulement les capitaux des fonds de retraite, des banques, des compagnies d'assurance, des caisses communes et autres. C'est d'abord et avant tout l'argent des gens. C'est l'argent des gens qui sont des épargnants, qui placent leurs actifs dans ces fonds-là. Hein, quand on cotise dans un fonds de retraite ou quand on contracte une police d'assurance ou quand on dépose son chèque de paye à la banque, ainsi de suite, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on confie son épargne à un gestionnaire, et les gestionnaires du Canada sont amenés à placer cet argent-là, qui est le nôtre, dans le secteur extractif qui se concentre à Toronto. Et donc, à partir de là, ce qu'on a, c'est un pactole qui est à la disposition de l'industrie minière, pour ainsi dire, et ce qui permet à l'industrie minière de développer, de financer des projets partout à travers le monde, en bénéficiant au Canada d'un troisième avantage, là, quand on s'inscrit ici plutôt qu'ailleurs, à savoir une sorte de couverture judiciaire. Il est très difficile ici de poursuivre au judiciaire, au pénal, ou au civil, une société pour ce qu'elle aurait commis à l'étranger.
Et justement, de quelle façon les lois sont... Est-ce que vous en parlez un peu dans le livre de ce système judiciaire-là qui empêche?
Oui, mais en fait, il se décline sous différentes formes. Hein. Au civil, Il est très difficile de poursuivre une société pour ce qu'elle aurait commis à l'étranger. Donc, ça lui donne une sorte de couverture. Et c'est Oxford Pro Bono Publico, une publication de l'université, du pôle universitaire d'Oxford, qu'on connaît bien au Royaume-Uni, qui a fait un rapport dans lequel on cite le Canada. Et le Canada passe pour un endroit où il est anormalement difficile de poursuivre au civil des sociétés pour ce qu'elle aurait commis à l'étranger. C'est-à-dire que si une société canadienne est accusée de complicité des actions criminelles, par exemple au Congo, on va dire, les tribunaux canadiens vont dire aux demandeurs, ben allez poursuivre la société au Congo, ou allez la poursuivre en Colombie, ou allez la poursuivre là où, en fait, on sait que les institutions de droit ne sont pas satisfaisantes, encore moins qu'ici. Donc, il y a ce problème-là au civil, le plus souvent au pénal. Le problème, c'est que pour obtenir le déclenchement d'une poursuite, il faut l'autorisation personnelle du ministre fédéral de la Justice. Et comme on sait que le gouvernement prend fait et cause pour l'industrie minière canadienne dans le monde, il n'y arrive pas souvent, pour ne pas dire en fait tout à fait jamais, qu'une société se voit poursuivie ici au pénal avec l'aval du ministre fédéral de la Justice. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. L'autre problème, c'est l'OCDE qui le révèle. Le Canada s'est engagé auprès de ses partenaires de l'OCDE, comme tous ces partenaires-là entre eux, de poursuivre des acteurs canadiens qui seraient coupables de corruption à l'étranger. Et là, l'OCDE a fait un rapport l'an dernier à propos du Canada, disant aux Canadiens, aux responsables politiques canadiens, il ne se peut pas. Parce que c'était le cas, là. Il ne se peut pas qu'en une dizaine d'années, le Canada ait épinglé seulement une société minière en matière de corruption, alors que 75% de l'industrie minière mondiale est chez vous. Et on sait que cette industrie-là, elle est sujette à la corruption. Elle pratique la corruption, c'est connu. Alors, comment se fait-il que seulement une société ait été épinglée tout ce temps-là, et non pas des dizaines, quoi, comme on pourrait vraisemblablement s'y attendre? Eh bien, on peut conclure, l'OCDE ne va pas jusque-là, mais si on pousse la logique à bout, que le Canada couvre les sociétés d'un point de vue judiciaire. On ne poursuit pas les sociétés ici pour ce qu'elles font à l'étranger, et on ne permet pas que des citoyens le fassent, quoi. C'est en gros la conclusion qu'on peut tirer. Et en termes de couverture aussi, c'est pas tout à fait sur un mode judiciaire qu'on peut le penser, mais il y a un problème quand même qui se pose, à savoir que lorsqu'une société canadienne, ici, on est quand même dans des questions de droit, là. Quand une société canadienne enregistrée ici, à Toronto, disons, au Canada, se trouve à l'étranger, que ce soit en Afrique, dans un pays à feu et à sang, ou auprès d'une communauté en Amérique latine qui est farouchement opposée à un projet, et que cette société-là, de par sa présence dans le pays où elle se trouve, provoque des remous, des crises, du désordre, des problèmes sécuritaires, même des problèmes de santé publique. Par exemple, parfois, il y a des mutations démographiques qui font que le sida se développe, ainsi de suite, où il va y avoir des problèmes de santé. Bon, si cette société-là, au moment où elle développe son projet, provoque des torts graves auprès de la communauté qui se trouve lésée ou en tout cas bouleversée par sa présence, la société n'a pas à Toronto à le divulguer, n'a pas à informer les marchés que tel est le cas, tant que la valeur de l'action n'est pas affectée. Donc, tant que sa valeur marchande à la bourse n'est pas affectée. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le droit canadien ne protège que les actionnaires, ne protège que les investisseurs, mais n'en a cure du sort des populations qui se trouvent aux abords des sites que se trouvent à exploiter ou que visent d'exploiter ou font des projets d'exploration les sociétés minières canadiennes.
C'est par exemple le livre Noir Canada qui a été également victime d'une poursuite SLAPP en raison justement des dénonciations de compagnies présentes en Afrique. Est-ce que tu veux nous glisser?
Oui, c'est un point intéressant. C'est un point complémentaire. Autant il est difficile pour les sociétés, autant il est difficile pour les citoyens de poursuivre au Canada une société minière pour ce qu'elle aurait commis à l'étranger, autant il est facile à l'intérieur de la législation pour une société de poursuivre, par exemple pour diffamation, des acteurs sociaux, disons, engagés dans un débat quant à l'industrie minière. Et là, je cite, par exemple, Pierre Trudel. Pierre Trudel, c'est un professeur de droit public de l'Université de Montréal qui, dans ses travaux, stigmatise un des problèmes de notre droit, à savoir que chez nous, dans la hiérarchie des valeurs légales, parce qu'en droit, on pense en termes de hiérarchie des principes, La réputation a préséance sur l'expression. C'est-à-dire que dans notre droit, la réputation d'une société, par exemple, a une valeur plus grande, hein, si on les met côte à côte, si on les compare, que la notion d'expression. Donc, il est plus important dans notre ordre légal de défendre le droit à la réputation d'une société que la liberté d'expression de ceux qui voudraient la critiquer. Donc, on se trouve structurellement dans notre droit en situation de désavantage lorsqu'on est poursuivi pour diffamation. Donc ça, c'est un problème structurel à notre droit qui est très grave dans la mesure où on se rend compte, quand on s'intéresse à la question, et peu s'en vante, au fond, il y a quelque chose d'un peu honteux à ça, mais on se rend compte à quel point il y a un nombre considérable de professeurs, de chercheurs, d'activistes, de consultants, même parmi les plus timorés, hein, de citoyens même, simplement des simples citoyens qui, à un moment donné, osent écrire une lettre ouverte à un journal, qui se trouvent en fait intimidés d'une manière judiciaire. Et là, je me réfère au livre de Normand Landry, Slap, là, chez Éco-Société, qui cite énormément de cas, mais aussi à notre propre ouvrage, là, Paradis sous terre, qui contient un chapitre sur la question.
Tu nous parlais aussi tout à l'heure, pour faire un petit détour, de paradis fiscaux. Est-ce que tu voulais plus développer sur le sujet?
Bien, c'est qu'il faut situer le problème du Canada dans le monde actuel. Hein, jusqu'à la fin du 20e siècle, jusque dans les années 1990, notre pays restait, au fond, une ancienne colonie avec toutes sortes de legs de l'époque coloniale qui étaient très actuelles et qui permettaient, au fond, à des grands groupes industriels d'exploiter nos ressources. Donc, d'un point de vue intérieur, là, du point de vue national, le Canada était une sorte de structure vouée à, au fond, à la défense des intérêts de grands groupes commerciaux, financiers, industriels qui visent l'exploitation de nos ressources, les mines, les céréales, et antérieurement, ça a été la fourrure, et ainsi de suite. Bon, la mondialisation libéral, économique, disons, a incité le Canada à internationaliser son modèle, c'est-à-dire à devenir le pôle financier du domaine minier mondial en fonction du principe suivant, les institutions coloniales que nous nous sommes données dans l'histoire et qui permettent l'exploitation des ressources pouvaient être utilisées dans l'ordre de la mondialisation économique à l'échelle internationale. Donc, on pouvait, comme je le disais tout à l'heure, inviter des industries d'un peu partout, s'enregistrer ici pour bénéficier de notre cadre législatif à l'extérieur de nos frontières. Et tout ça se fait à la manière, hein, des législations de complaisance dont font partie les paradis fiscaux. Au fond, le Canada, c'est un paradis comme un autre. Étant entendu que s'il y a quelques 80-90 paradis fiscaux dans le monde aujourd'hui, c'est que chacun d'entre eux a sa vocation particulière. C'est-à-dire, si on enregistre un bateau pour contourner les règles en matière de loi du travail puis de normes environnementales dans le domaine du transport maritime, on va au Panama, on va pas ailleurs, on va au Libéria, on va dans la République de Malte, mais on va dans des ports francs. Si on veut pratiquer le hors-bilan dans le secteur bancaire, on va au Luxembourg. Si on veut fusionner des entreprises en contournant les règles à cet égard qui sont en vigueur dans les États traditionnels, ben on va, je sais pas moi, dans les îles anglo-normandes. Si on veut développer l'industrie minière, on va au Canada. C'est dans cette même optique-là. Le Canada a en quelque sorte offshorisé tout un secteur de la vie publique ici, qui est celui de l'exploitation des mines. Et donc, on a ce qu'on fait, au fond, ici, c'est offrir à l'industrie minière des avantages en ce qui concerne le droit à spéculer outrancièrement à la bourse, des capitaux en masse qui sont concentrés pour l'industrie minière, étant donné des avantages fiscaux qui sont conférés à des investisseurs, un soutien diplomatique à l'échelle internationale où se trouvent les sociétés minières canadiennes, une couverture judiciaire pour contrer d'éventuelles poursuites, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, ce qu'on a, c'est très clairement là un havre judiciaire et réglementaire qui couvre l'industrie minière mondiale pour ce qu'elle fait à l'étranger. Et l'industrie minière mondiale sait que lorsqu'elle s'inscrit au Canada, elle ne sera pas dérangée si jamais il a peur qu'il a fallu procéder de façon illégale, voire criminelle, dans certaines régions du monde pour arriver à ses fins.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont couverts dans le livre dont tu voudrais nous faire part?
Ben, c'est un livre qui, si je peux le résumer ainsi, c'est un livre qui est un précis. Si je dois désigner son genre, là, c'est un précis qui vise à rendre accessible ce dont on avait parlé, Delphine Abadie, William Saché, moi-même, dans Noir Canada. Nous définissons le Canada comme un paradis réglementaire et judiciaire du secteur extractif mondial en raison de 6 points. Et les 6 points sont déclinés dans 6 chapitres. Donc, évidemment, chaque chapitre correspondant à un point respectif. Et il y a des prolégomènes, c'est-à-dire une espèce de longue introduction historique qui situe le cas canadien dans sa propre histoire pour qu'on comprenne pourquoi on en est arrivé là. Donc, c'est un tour d'horizon de ce propos.
Parfait. Donc, il est disponible chez Éco-Société dès maintenant?
Oui, depuis mardi dernier.
Donc, merci beaucoup, Alain, pour cette présentation.